Étienne Ninongou pour des extraits de Théorie du Coyote, puisque c'est le titre de ce livre.
Je précise que la composition du texte a été faite par Mathilde et j'ai trouvé ça très judicieux, puisque après j'ai lu le livre et j'ai trouvé les cohérences en lien avec les sujets qui vont être traités. J'ai trouvé vraiment les cohérences dans ta composition, ton articulation, donc tu as mâché le travail pour moi. Tout comme il est de plus en plus admis que la diminution de la biodiversité est une catastrophe, j'aimerais une défense massive de la culturodiversité. Il n'y aura jamais trop de livres, de spectacles, d'artistes ou de concerts. Puisque la réduction s'opère toujours dans les marges, elle élimine les plus faibles, les formes de création minoritaires, les expérimentations, les recherches les plus aventureuses. Une coupe ici, une entaille là, et peu à peu, seuls les plus forts, ceux qui s'adressent au plus grand nombre, ceux qui font les meilleures ventes, les plus grandes recettes, les billetteries les plus rentables, seuls les plus forts survivent. Et ceux-là ne sont pas ceux qui innovent, inventent, font des pas de côté, ils marchent. Au milieu de la route, et j'adore cette expression anglaise qui désigne l'art le plus consensuel. Middle of the road. Alors évidemment, personne, je l'espère, n'est assez naïf pour croire que les collections des musées, le répertoire des orchestres et des opéras, les œuvres étudiées en classe, les classiques joués dans les théâtres, personne, je l'espère, m'est assez naïf pour croire qu'il représente le meilleur de la culture. Sont adoubées au patrimoine culturel les œuvres des vainqueurs. Pour devenir un classique, il faut avant tout avoir triomphé. Le choix des œuvres qui passent à la postérité a été fait par les princes, les conseillers, les professionnels de la culture, les marchands, les puissants, les influents, les papes, les spéculateurs et les héritiers. Une infime partie des œuvres culturelles acquiert le statut de classique. On ne connaît en réalité qu'un petit nombre des artistes du passé, parce qu'il faut des relations. Une part de chance pour devenir un classique. Il faut que des gens importants aient misé sur vous. Le talent, l'audace, le savoir-faire jouent bien entendu un rôle, mais ils ne sont pas essentiels. Une œuvre entrée dans les collections d'un musée n'est en rien meilleure qu'une œuvre oubliée. Elle a gagné. Son auteur a gagné. Il s'est parfois suffi d'un peu plus de réclame, d'un peu plus d'entre-gens, d'un peu plus de relations. Pas d'un peu plus de talent. L'art ne récompense pas le mérite. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, depuis une dizaine d'années, avec quels efforts attendrissants, curateurs, conservateurs, historiens et intellectuels ont plongé dans les archives, les réserves, les vieux cartons, pour y chercher des femmes. Les expositions d'artistes féminines font découvrir tout un pan inconnu de l'histoire de l'art. Donc, voyez-vous, notre culture est principalement une culture d'objets, de partitions, de livres, de tableaux, de dessins, de gravures, d'enregistrements. Au fil des siècles, des choix de conservation de ces objets ont été faits et ces choix n'ont jamais été neutres. Ils ont toujours obéi au pouvoir dominant. On réalise d'ailleurs un peu tardivement que bon nombre d'objets culturels créés par des femmes ou des artistes éloignés du pouvoir ont aujourd'hui disparu. Les musées ne renferment une quantité négligeable de ce qui devrait constituer notre culture. Et il n'y a aucune valeur objective des objets culturels. La valeur, elle est produite. Produite par un marché et aux mains des puissants. La culture est donc profondément injuste. Elle est une lutte. Une lutte des classes, des sexes, des générations, des pouvoirs, des influences. Un combat publicitaire. Le talent n'explique jamais une carrière et je me demande si la légende selon laquelle les artistes sont parfois reconnus après leur mort n'est pas une adaptation laïque de l'idée religieuse selon laquelle nos mérites seront récompensés dans l'au-delà. Rien donc n'a changé depuis le Caravage, Mozart, Shakespeare ou Zurbarán. Sans la protection de l'aide du roi, du prince, du pape, des seigneurs, du calife, de l'évêque, du pontife, de la collectivité locale, du mécène, de la commission culture, du CNL, du CNAP, d'Arsena, de la SACD, de la SCAP, de la SOFIA, de la DRAC, etc., eh bien, sans la protection, sans leur protection, il n'y aurait pas d'art ni de culture. Et quand on baisse de 10% le budget d'un théâtre ou d'une salle de concert, il ne suffit pas de faire 10% de spectacle en moins. Les coûts fixes ne changeront pas. C'est juste le début d'une spirale qui aboutira à une perte catastrophique de diversité culturelle. Et puisque culture et agriculture proviennent du même mot, on devrait avoir compris depuis le temps que la monoculture est une catastrophe. Une catastrophe humaine, sociale, écologique, économique. Je vois de plus en plus de professionnels de la culture tiraillés par des impératifs contradictoires. Ils doivent faire plus, avec moins, moins d'argent. Ils doivent plaire. Ils doivent combler un public acquis à la cause tout en allant chercher d'autres publics. Ils doivent multiplier les projets, ils doivent composer avec des tutelles, des financeurs, des élus, des collectivités locales pour lesquelles la culture est un enjeu de pouvoir. Ils doivent ne pas choquer. Ils doivent présenter des excuses si les artistes, comme moi, choquent leur public. Ils doivent se conformer à des plans de marketing territoriaux où la culture est instrumentalisée. Je les envie parfois, moi, parce qu'ils ont un salaire. Mais pour rien au monde, je ne voudrais de leur travail. Combien de burn-out autour de moi? J'ai un ami, un porteur de gros projets culturels, qui a fait un infarctus au moment où le projet qu'il présente lui échappe. Est-ce qu'il est une victime de la culture? Un responsable de tel équipement culturel me dit « il n'en peut plus », que tout le pousse à partir, qu'il est un instrument aux mains d'ambitions politiques. Est-ce qu'il peut exercer correctement son travail? Les structures qui œuvrent à la diffusion de la culture, c'est-à-dire au soutien à la création, à la démocratisation, à l'accompagnement artistique et à la médiation, font face à une déstabilisation inédite. Moins de budget, plus de projets, une constante nécessité d'affirmer leur pertinence face au populisme ambiant. On pourrait même peut-être penser que c'est la fin d'un modèle et qu'il faut en imaginer un autre. Si ce n'est que les artistes, eux, doivent affronter les mêmes attaques et que bien souvent, ils sont seuls et isolés, ces artistes-là, peu aptes à se défendre. Parfois, j'entends aussi des professionnels de la culture, j'écoute les mots qui cascadent de leur bouche, couveuse, incubateur, accélérateur, cluster, pôles territoriaux, coopération, mentorat, innovation managériale, mise en réseau, expertise, gouvernance. Et j'ai envie de pleurer ou de tout casser, de hurler. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Ils sont foutus. Ceux qui emploient sans la critiquer la langue du grand marketing managérial. Mais voilà, la culture fait consensus. Il faut être le plus obtus des talibans pour refuser la musique, la peinture, le théâtre, la littérature, l'architecture, la sculpture. La culture, tout le monde est prêt à la défendre. Par contre, des artistes dans la rue, suite à une diminution du budget de la culture, ça n'intéresse pas grand monde. C'est corporatiste. Par contre, le fait de payer des indemnités de chômage aux techniciens, aux artistes du spectacle vivant, ah, ça divise. Par contre, de nombreuses personnes crient au scandale quand ils apprennent le budget d'un opéra. Par contre, les subventions données au théâtre, aux musées, aux salles de concert, aux centres d'art, aux artothèques, aux festivals, aux compagnies, aux artistes posent problème, les gens râlent. C'est comme nos impôts. La culture, c'est bien, mais il ne faudrait pas trop la subventionner. Par contre, si le prix des places ou le tarif des entrées est trop élevé, on n'ira plus. Il ne faut pas exagérer. La littérature, les gens sont pour. Par contre, les livres sont trop chers. Par contre, on se fout de savoir que les écrivains ne vivent pas de leurs droits. Par contre, si on pouvait, on téléchargerait les livres. Mais on aime encore le papier dans ce pays. On préférerait que les livres soient gratuits, tomber du ciel dans les boîtes à livres situées sur les places des villages ou les halls des gares. Par contre, le cinéma, la musique, ça, oui. Oui, oui. On télécharge. Sans trop se soucier de savoir à qui va manquer cet argent. Alors, je vais résumer. La culture, on est pour. Mais il faudrait qu'elle soit compétitive, concurrentielle, qu'elle s'autofinance, qu'elle soit gratuite. Et que les artistes ne se la ramènent pas trop avec leurs exigences. Ils ont tout de même la chance de faire quelque chose qui les passionne. Voilà.
Merci beaucoup pour cette lecture. Vous l'aurez compris, ça résonne avec pas mal quand même de nos pistes de recherche et puis des préoccupations des acteurs de la culture. J'en profite pour dire que le livre, si vous a intéressé, parce que ne perdons pas le Nord, il faut aussi que les acteurs culturels locaux vivent, vous pourrez en acheter. Bon, dans le petit chapiteau, vous pourrez voir, c'est un très joli petit livre aux éditions de La Clé à Molette. La pub, mais voilà, c'est ce petit livre-là dont sont issus les extraits qui vous ont été lus par Étienne. Merci encore.